Radio Django, la rose des vents.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir Fabien.
Ce soir dans la Rose des Vents, nous parlerons du droit d'asile en Suisse et de ses conditions d'octroi dans un contexte politique et médiatique de lutte contre les abus dans le domaine de l'asile. Obtenir une autorisation de séjour devient, en certains cas, un vrai challenge. Le système s'est donc durci, si j'ai bien compris.
En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile, la LACI, en 1981, on est face à une frénésie législative, une expression chère à Étienne Piguet, professeur de géographie à l'université de Neuchâtel et vice-président de la Commission fédérale d'immigration. Depuis les années 80, le domaine de l'asile est en permanence révisé, avec une tendance au durcissement des conditions d'accès à la procédure d'asile et des conditions d'accueil.
Mais alors qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui a au juste changé concrètement depuis les années 80 ?
En fait, avant, il n'y avait pas de procédure spécifique à l'asile, mais il y avait quelques dispositions relatives à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Et on trouvait aussi quelques dispositions dans les ordonnances d'application. Mais aucun texte qui réglementait une procédure d'asile. Finalement, la loi a permis d'instaurer une procédure d'asile qui permet aux requérants de déposer une demande, mais c'est l'État qui choisit à qui il donne l'asile ou pas. Et il paraît aussi important de souligner qu'avant l'introduction de la LACI, la question de l'asile était dissociée de celle de l'immigration et qu'elle était plutôt lue en termes de tradition humanitaire et tradition d'accueil. Alors que la question de l'immigration était plutôt perçue en termes de surpopulation étrangère, une menace pour l'économie et l'identité nationale. Dès les années 80, on assiste à un glissement où le droit d'asile n'est plus vraiment perçu dans sa dimension humanitaire, mais plutôt comme une menace sécuritaire.
Effectivement, on comprend bien. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jonathan Mia. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Strasbourg, également à l'Université de Lausanne, avec une co-tutelle. Vous êtes chargé de cours à l'Institut d'études politiques, historiques et internationales. Et votre thèse, que vous défendrez d'ailleurs au mois de juin, s'intéresse notamment aux pratiques administratives des fonctionnaires de l'Office fédéral des migrations qui produisent la politique d'asile. Alors, Jonathan Mia, avant de se pencher sur les questions administratives des fonctionnaires de l'ODM, pour quelles raisons l'asile, depuis les années 80, c'est plus considéré en termes de tradition humanitaire et d'accueil, mais plutôt en termes d'immigration ? Qu'est-ce qui a expliqué ce glissement ?
Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Pour répondre à cette question, on peut peut-être souligner d'abord plusieurs éléments. D'abord, c'est que le cadrage en termes de tradition humanitaire est plutôt concurrencé par un cadrage plus sécuritaire à partir des années 80. Donc ça veut dire que le discours en termes de Suisse terre d'asile ne disparaît pas réellement, mais que les leitmotifs qui vont justifier les révisions sont plutôt la lutte contre les abus ou l'accélération des procédures. Et donc dans les années 70 et dans les années 80, on assiste à un contexte qui est aussi marqué par le chômage et par le ralentissement économique. Ce phénomène se passe en fait de manière plus générale en Europe, hein, où les pays procèdent progressivement à la fermeture des frontières. Enfin, on peut aussi souligner comme élément d'explication, hein, ce n'est pas des facteurs, directs de ce phénomène-là, les transformations des migrations elles-mêmes. Dans les années 50 et dans les années 60, il s'agissait surtout de réfugiés qui venaient d'Europe de l'Est et qui fuyaient des régimes communistes. À partir des années 70 et des années 80, on assiste à un nouveau contexte de la migration internationale avec des réfugiés qui viennent de plus en plus de régimes autoritaires d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine, avec le Chili, par exemple, où en 1973, la Suisse avait accepté un contingent de réfugiés chiliens d'environ 250 personnes, ce qui contraste avec les contingents de réfugiés hongrois qui étaient plutôt accueillis par dizaines de milliers. Enfin, il y avait 10 000 personnes, un contingent de 10 000 personnes qui avaient été accueillis en 1956 et en 1963, 8 000 Tchécoslovaques. Donc il y a ce type de changement auquel on assiste à partir des années 80.
Mais Jonathan, dans quel contexte ont émergé les notions d'abus et de faux réfugiés ?
Oui, alors les notions d'abus et de faux réfugiés émergent en Suisse surtout à partir des années 80, directement après l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile. Donc, dès le début des années 80, on a des interventions parlementaires qui sont surtout portées par des politiciens de droite ou d'extrême droite, hein, qui interrogent ou dénoncent un afflux de réfugiés et l'existence d'abus du droit d'asile par des faux réfugiés qui auraient des motifs uniquement économiques. Donc, pour répondre à ces interventions parlementaires, le Conseil fédéral va présenter une première révision de la loi sur l'asile qui va être acceptée au Parlement dès 1980. 1983, donc 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile. Et ensuite, les discours sur les abus vont permettre de justifier différents durcissements dans les différentes révisions législatives, et il y en a eu beaucoup à partir de 1980.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer justement que toutes ces notions qui revenaient à la charge en permanence à chaque fois qu'il y avait des révisions ont permis de durcir cette loi et de la rendre de moins en moins inflexible ?
Oui, alors, il y a plusieurs éléments à mentionner. D'abord, c'est que ces discours sur les abus et les faux réfugiés construisent une figure un peu stéréotypée qui est censée résumer les différents problèmes que rencontrerait la procédure d'asile. Donc, ils vont beaucoup jouer sur une indignation morale à l'égard de certains types de comportements, en désignant tour à tour, et donc progressivement dans le temps, par exemple, les personnes qui déposeraient des demandes jugées infondées ou basées sur des motifs économiques, des personnes qui auraient des comportements qui visent à tromper les autorités ou à ralentir la procédure, ou encore des requérants d'asile qui commettent des délits. On pense par exemple à la figure du réfugié dealer, en lien avec la problématique de la criminalité étrangère. Et donc, tous ces discours sur les abus et les faux réfugiés vont justifier l'adoption de différentes mesures qui viseraient à résoudre ces problèmes qui sont donc construits dans ces discours. Je peux juste citer quelques mesures qui sont adoptées, mais par exemple, les restrictions d'accès au marché du travail pour les requérants d'asile, des restrictions d'accès aux prestations sociales qui sont jugées trop attractives, des mesures d'accélération des procédures pour les demandes qui sont jugées manifestement infondées. À l'époque, c'était les décisions de non-entrée en matière, ou encore l'introduction de techniques d'identification, donc un contrôle plus resserré des personnes, ou encore l'introduction de mesures de contrainte en vue du renvoi.
Mais dans le cadre de votre thèse, vous vous êtes penché notamment justement sur les procédures d'audition. Et dans quelle mesure est-ce que ces termes, qui sont finalement peu utilisés par les fonctionnaires, influencent malgré tout ces auditions ?
Voilà, c'est vrai que c'est des termes qui sont assez peu utilisés par les collaboratrices et les collaborateurs du secrétariat d'État aux migrations. Mais je dirais que les discours sur les abus et les faux réfugiés ont contribué à renforcer un climat ou une logique de soupçon à l'égard des requérants d'asile et de leurs motifs. Et donc, ça se traduit notamment dans la notion de vraisemblance, puisqu'il faut savoir que dans la procédure d'asile, le fardeau de la preuve incombe aux requérants d'asile, qui doivent donc prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'ils sont des réfugiés. Et donc, avec ces discours sur les abus et les faux réfugiés, le soupçon est peut-être un peu plus fort, et les exigences de crédibilité qui pèsent sur les requérants d'asile sont peut-être davantage renforcées encore. Donc, au fur et à mesure des révisions, une spécification de cette notion, une sophistication de cette notion de vraisemblance et du travail en audition pour mettre à l'épreuve les récits. Donc les récits sont mis en doute et mis à l'épreuve durant les auditions pour vérifier s'ils sont bien vraisemblables.
Pour redéfinir le cadre, comment se passe une audition et quels sont les principaux acteurs ?
Alors, une audition, donc déjà il y a 2 types d'auditions dans la procédure d'asile. Une première audition qui est dite audition d'enregistrement ou audition sur les données personnelles, qui permet aux employés du secrétariat d'État aux migrations de poser des questions d'abord sur l'identité de la personne, son réseau social, ses conditions de vie dans son pays d'origine et brièvement sur ses motifs d'asile. Ensuite, dans une deuxième audition, qui est dite audition sur les motifs d'asile.
Qui a lieu à Berne.
Qui a lieu généralement à Berne, mais qui peut aussi avoir lieu dans les centres d'enregistrement et de procédure en fonction du temps d'instruction, en fait. Et là, durant ces auditions, ce sera plutôt les motifs d'asile qui vont être questionnés par les fonctionnaires du secrétariat d'État aux migrations, notamment pour vérifier d'une part si les motifs sont pertinents par rapport à la définition du réfugié. Donc, est-ce que la personne est une réfugiée ou un réfugié conformément, donc est-ce que la personne craint à juste titre d'être persécutée ou a subi de sérieux préjudices en raison de son appartenance ethnique, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Et ensuite, il vise à vérifier la pertinence des motifs d'asile, mais aussi leur vraisemblance, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont crédibles, est-ce qu'il y a la preuve ou la personne réussit-elle à rendre vraisemblable qu'elle est un réfugié.
Mais en parlant de vraisemblance, finalement, quelles mesures ont les spécialistes en fait asile pour déterminer cette valeur de la vraisemblance?
Oui. Alors, il y a plusieurs éléments. Donc, ils ont notamment les auditions qui sont peut-être les principaux éléments sur lesquels ils vont baser leurs décisions et qui leur permettent du coup d'établir l'état de fait sur lesquels ils vont baser leurs décisions pour qualifier en fait la demande d'asile. Et durant ces auditions, ils ont plusieurs techniques. La première, c'est peut-être le récit libre, c'est-à-dire une question ouverte qui va inviter la personne à s'exprimer sur ses motifs d'asile et qui va leur permettre de vérifier d'abord la qualité du récit. Est-ce qu'il y a des indices de vraisemblance ou d'invraisemblance dans ce récit ? Et ensuite, avec différentes questions, ils vont aussi resserrer et réorienter aussi leurs questions et le récit du requérant vers les éléments clés sur lesquels ils vont pouvoir baser leur décision. Donc là, il s'agit brièvement de vérifier si le récit est cohérent au niveau externe, donc cohérent par rapport aux faits connus dans le pays, ou cohérent au niveau interne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des contradictions, est-ce que le récit est plausible aussi.
Vous avez eu l'occasion de scruter en fait ces fameux questionnaires. Est-ce que vraiment on peut mesurer le taux de vraisemblance d'un récit ou pas ?
Je pense que c'est très difficile. Et évidemment, il y a une part d'appréciation personnelle. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des récits. La décision va se baser sur ces récits-là et non pas sur la vérité absolue. Je ne sais pas si je suis très clair.
Si vous êtes clair, ça, mais,
voilà, il s'agit d'évaluer le récit par rapport aux faits connus et par rapport à sa cohérence interne et externe et sa plausibilité.
Et finalement, avec toutes ces procédures d'asile, est-ce que le pourcentage de demandes a diminué ou pas ?
Alors actuellement, on a une période assez particulière qui montre en fait assez bien l'importance des pays d'origine des requérants d'asile, puisque depuis 2014, les principaux pays de provenance des requérants d'asile sont l'Érythrée, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Sri Lanka ou la Somalie. Et donc, le taux de protection, donc qui cumule le taux d'octroi de l'asile et le taux d'octroi d'une admission provisoire, en 2014 était de 58%, était de 53,1% en 2015 et il est de 48,7% en 2016, ce qui contraste avec la période du début des années 2010, en 2010 et 2013, où le taux de protection se situait plutôt entre 20 et 30%.
Donc on peut rester optimiste. Merci Monsieur Mia, et nous remercions également Sarah Tocchetti, qui a organisé cette conférence le 3 décembre à Valorbe, au Centre d'enregistrement et de procédure. Et Sarah s'occupe notamment de la Société suisse de sociologie des sciences et techniques.
Merci.
Et on aura l'occasion d'en reparler très bientôt, Daniel.
Absolument. La semaine prochaine, nous visiterons Aravo, virtuellement.
Eh ben, merveilleux, magnifique. Voilà de belles découvertes.
Et sa mission. Pour tout
ce qui est. Ben oui, la mission, on va en parler. Tout ça la semaine prochaine, la suite de ce sujet qu'on a entamé gaiement aujourd'hui. Merci beaucoup, Jonathan Mia.
Merci à vous.
Une très belle soirée. On rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques et on retiendra que les instructions des demandes d'asile montrent une ferme volonté des politiques de contrôler l'immigration. Finalement, cette question du vrai et du faux se vérifie en termes de vraisemblance et d'invraisemblance, hein, logiquement. On n'en cherche pas la vérité, mais on veut juste vérifier les faits. C'est ce qu'on vous a expliqué, Jonathan Mia, par une de vos invitées. L'investigation de la vraisemblance laisse donc une grande marge de manœuvre aux experts. Merci beaucoup, Daniel. Un sujet à retrouver tout bientôt sur notre site django.fr.